Une exposition consacrée à Adélaïde Ovalde, intitulée « Rester humain », se déroule en ce moment à la résidence Horte de Strasbourg. Adélaïde Ovalde est la première femme alsacienne, juste parmi les nations. Cette femme, née en 1906, a été déportée en 1942 pour s'être opposée à l'arrestation d'une femme juive, en argumentant que les juifs étaient des personnes comme tout le monde. Adélaïde Ovalde, médecin psychiatre, refusera de participer à des expériences médicales sur des juifs pendant son incarcération à Pithiviers, puis à Beaune-la-Rolande avant d'être envoyée à Auschwitz. Elle est un exemple de résistance, mais aussi d'humanisme et de dévotion pour les autres. Pour nous en parler, Philippe Ichter, chargé de mission aux relations avec les cultes et au dialogue interreligieux, suivi de Georges Hopman, professeur d'immunologie à la retraite et spécialiste de la vie de celle qu'on surnommait Heidi. On écoute Philippe Ichter. Philippe Ichter, chargé de mission aux relations avec les cultes et au dialogue interreligieux, département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Donc, vous êtes là à propos de l'exposition Adélaïde Ovalde, Rester humain, une juste parmi les nations. Comment est-ce que vous avez découvert ce personnage?
C'est grâce à une rencontre avec le professeur Hopman il y a quelques années que nous avons pu découvrir ce personnage important, cette personnalité importante alsacienne qui a été extrêmement discrète durant sa vie, fille de pasteur au Ovalde, puis à Guebwiller, donc un côté Bas-Rhin, un côté Haut-Rhin. Elle a aussi été présente dans une résistance très, 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 très forte, puisque pour des raisons assez abracadabrantesques, elle s'est retrouvée dans des camps, même jusqu'à Auschwitz. Médecin psychiatre, elle a résisté. Elle n'a pas accepté qu'il y ait des femmes sur lesquelles on fasse des expérimentations. Elle a vraiment été une amie des Juifs aussi, parce que son père, pasteur, a été à l'époque très proche et du catholicisme et du judaïsme, ce qui n'était pas vraiment bien vu, à tel point que le pasteur Haas, c'était son nom, a mis fin assez rapidement à son ministère pastoral lorsqu'il a commencé à avoir des soucis avec sa hiérarchie. C'était une autre époque. Et dans cette époque-là, pourtant aujourd'hui, on se retrouve avec une personnalité très très forte. Première femme alsacienne qui est juste parmi les nations. Quand on va à Yad Vashem, on voit que son portrait est à côté d'Oscar Schindler. Donc c'est dire cette personnalité, ce qu'elle a apporté dans le sens de la mémoire du judaïsme, de la mémoire de la Shoah aujourd'hui. Et au niveau des deux départements et des deux présidents de département, donc Brigitte Linkert pour le Haut-Rhin et Frédéric Bierry pour le Bas-Rhin, président pour lesquels je travaille, l'important c'est que cette exposition puisse aller dans les collèges de nos deux départements, et c'est le cas, et cette exposition a beaucoup de succès et permet d'expliquer aux jeunes élèves, aux jeunes collégiens, qui elle était et ce qu'elle a fait et ce qu'était cette époque terrible de notre histoire.
Elle a été résistante, internée dans les camps, vous le disiez, au prix de sa propre vie. Que vous pensez qu'on peut découvrir encore d'autres personnes comme ça qui, au mépris de leur propre vie, veulent sauver une cause qui leur paraît juste et se mettre en porte-à-faux comme ça avec un gouvernement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait résonance?
Je ne sais pas si on va découvrir encore d'autres personnes, mais en tout cas, elle est dans le même style qu'Albert Schweitzer. Restons en Alsace, Albert Schweitzer notamment, mais aussi dans le même style que Gandhi, que des personnes comme ça qui ont, en fait, par une non-violence extrêmement forte, témoigné d'une résistance extrêmement forte. Et je pense aussi à ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je pense à ce qui se passe dans certains pays. Cette résistance et le fait de ne pas s'incliner demandent une rectitude et une trajectoire de vie très forte. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personnalité-là particulièrement, parce que justement, elle est un témoin très fort et parce qu'elle vient nous dire quelque chose de ce à quoi il serait bon que nous puissions nous attacher dans une époque relativement perturbée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec la résurgence de l'antisémitisme et avec les solutions que nous essayons de trouver au département. Comme vous le savez, on a mis en route ce réseau de veilleurs de mémoire. On est vraiment aussi là dans cette idée de non, vraiment, on résiste résiste et on ne s'incline pas.
Est-ce que ça fait partie du travail de mémoire à part entière auprès des élèves, auprès du grand public, que de faire un focus sur des personnalités telles que Adélaïde Hautevalin ?
Très clairement, oui, ça fait partie du travail de mémoire, mais le travail de mémoire n'est rien en lui-même s'il ne sert pas à vivre aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui est le souhait très clairement politique des deux présidents de département, c'est de dire voilà, aujourd'hui on est sur un territoire particulier. Je dis souvent que c'est un territoire frontière à mémoire particulière, on le voit quand on va au mémorial à Schirmeck. Et ce territoire particulier a aussi porté des personnalités particulières. Dans cette manière de se projeter dans l'avenir, il est au moins nécessaire de diffuser leur vie, leur témoignage, pour que tout cela n'arrive plus.
Ça correspond à ce triste anniversaire du 75e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. L'ouverture de cette exposition, c'est un hasard ?
Jamais, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, vous le savez bien.
Philippe Pichler, merci beaucoup.
On écoute Georges Hopman.
Monsieur Georges Hopman, professeur d'immunologie à la retraite, à propos de cette exposition consacrée à Adélaïde Hautevalin. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de mettre en avant cette personne qui a été nommée juste parmi les nations, qu'en fait on est loin de votre domaine de prédilection?
Oui, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au départ, j'étais élève d'un éminent professeur, qui était professeur Robert Betz, qui, après la guerre, après avoir été déporté à Auschwitz, à Buchenwald, est revenu à Strasbourg, où il avait créé ce qu'il avait appelé l'ensemble hématologique de Strasbourg, c'est-à-dire un grand centre de transfusion, un institut d'hématologie, une clinique des maladies du sang. J'ai travaillé avec lui pendant 10 ans, je ne peux pas l'oublier. Et ce qui m'a incité donc à évoquer sa mémoire et évoquer la mémoire de médecins déportés dont on ne parle pas tellement. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aussi au parcours extraordinaire d'Adélaïde Hautevalin, relativement peu connue, qui mérite effectivement qu'elle soit mise en lumière. Voilà, c'était l'origine de mon action.
Donc c'est sa qualité de médecin qui vous a intéressé, son parcours de femme médecin à l'époque, c'était pas courant ?
C'était pas très courant, hein, parce que quand on voit une photo des étudiants en médecine à ce moment-là, bon, les femmes étaient minoritaires. Et surtout, je pense qu'elle était en Alsace la première femme qui a étudié la psychiatrie et qui s'est consacrée à la psychiatrie infantile.
Elle est reconnue juste parmi les nations à Yad Vashem en Israël. Est-ce que vous regrettez qu'en Alsace, maintenant elle va l'être évidemment avec l'exposition, mais elle ne soit pas plus connue et surtout reconnue?
Oui, il y a beaucoup d'efforts qui avaient été faits pour la faire connaître. En particulier, il faut citer que l'ancien maire de Hautevalin, M. Hazeman, avait fait établir une magnifique fontaine qui se trouve sur la route qui va vers le Kreuzberg, qui est dédiée à Adélaïde Hautevalin. Et en 1991, Mme Catherine Trautmann avait fait débaptiser la rue Alexis Carrel devant l'hôpital d'Haute-Pierre, parce que Alexis Carrel avait préconisé l'utilisation des chambres à gaz pour éliminer les personnes mentalement déficientes. La rue ayant disparu, j'avais proposé que l'espace piéton soit appelé Allée Adélaïde Hautevalin. Et il y a une rue qui porte son nom à Bourges, et j'avais aussi obtenu qu'un hôpital près de Paris, à Villiers-le-Bel, porte son nom. Voilà, donc il y a eu des actions menées, mais pas suffisantes.
Vous avez commencé votre discours en nous parlant d'Adélaïde Hautevalin comme une femme, comme une citoyenne, non pas comme une résistante. Vous vouliez dire que tout le monde peut résister et s'opposer à quelque chose qui lui paraît injuste.
Oui, c'est peut-être pas donné à tout le monde de le faire, mais elle, par son éducation obtenue du père, qui était très patriote, comme je l'ai rappelé, qui était très manifestait beaucoup d'empathie pour le peuple juif, l'avait préparé en quelque sorte à cet acte de résistance. Et une circonstance très particulière l'a engagée dans un cycle pratiquement infernal, n'est-ce pas ? Mais elle avait une force de caractère extraordinaire. En plus, évidemment, une formation médicale extrêmement importante, parce que la faculté de médecine, après la Première Guerre mondiale, était très réputée, il y avait beaucoup de professeurs éminents. Et c'est donc la formation qu'elle a eue de ses parents, de son maître Charles Ferdorf, qui l'a préparée à son destin.
En détention, elle avait fabriqué une étoile jaune pour être parmi ses congénères qui étaient destinés à un triste sort. Elle était prête à aller jusqu'à la mort pour dénoncer le sort de ses congénères dans les camps.
Ah oui, elle était prête à mourir, hein, parce qu'à un moment donné, quand elle était dans le Auschwitz-Birkenau, une personne lui a dit écoute, le lendemain, il y a un camion qui va venir pour te conduire au camp 1, il y aura des exécutions. Et cette personne lui a dit, il faut que tu acceptes de partir aux exploits. Elle a dit, je ne pourrais pas le faire, c'est contraire à mes convictions. Et donc, elle n'a pas hésité, menacée de mort. Elle n'a pas voulu renoncer à son action, n'est-ce pas ? Et elle a échappé par miracle parce que cette personne lui a donné un somnifère pour faire croire qu'elle était morte. Et donc, c'était assez miraculeux. Et d'ailleurs, elle s'est posé beaucoup de questions après parce qu'elle a pensé que cette personne avait donné le cadavre d'une autre personne à sa place pour faire croire aux autorités allemandes qu'elle était morte.
Quelles sont les relations qu'elle a gardées avec la communauté juive à sa libération et dans sa vie civile après la Shoah ?
Oui, elle a porté beaucoup de relations, surtout des relations avec le milieu protestant parce qu'elle était, elle était médecin scolaire en Seine-et-Oise. Elle participait aux activités d'un foyer protestant, de Grenelle où elle accueillait des personnes de toutes les nationalités et en plus elle a voulu introduire là-bas, elle jouait le rôle d'organiste, elle voulait introduire de la musique religieuse juive, n'est-ce pas, à ses cultes. Elle était allée à New York où elle avait été invitée à recevoir un prix, elle était allée voir dans les librairies pour trouver de la musique religieuse juive qu'elle voulait présenter au foyer.
Monsieur Georges Hopman, merci beaucoup.